Vous écoutez
RMC.
On va tout de suite parler du froid qui s'est installé sur une large partie du pays, un froid dont souffrent particulièrement les plus précaires. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Médecin, président de Médecins du Monde. Le plan grand froid a été déclenché dans une vingtaine de départements, ce qui veut dire concrètement davantage de places d'hébergement, des maraudes renforcées. Est-ce que c'est suffisant, Jean-François Corti?
Les chiffres sont parlants et nous font comprendre l'urgence de la situation. Je vais rappeler le constat, c'est près de 350 000 personnes qui vivent dans la rue chaque année. C'est 4 millions de personnes qui sont mal logées. Et de fait, depuis 10 ans, c'est une augmentation de 150%. Donc on est dans une situation extrêmement grave et c'est près de 900 morts chaque année dans la rue. Donc aujourd'hui, cette annonce, elle confirme le fait que les places et les dispositifs classiques sont insuffisants. De notre point de vue, ils devraient être ouverts toute l'année, parce que je rappelle que on meurt autant dans la rue en hiver qu'en été. Et donc, ces dispositifs qui vont, on l'espère, s'ouvrir en plus grand nombre, des gymnases, plus de moyens pour le 115 notamment, les dispositifs d'appel et les plateformes. En fait, ce nombre devrait être la norme durant toute l'année. Cette augmentation de places aujourd'hui, elle est
insuffisante. On attend que les températures baissent pour enfin ouvrir les places dont on aurait besoin le reste de l'année?
Oui, en fait, ce qu'on constate sur nos interventions, et Médecins du Monde, c'est près d'une trentaine de projets en France, c'est qu'il y a de plus en plus de familles, de femmes et d'enfants dans la rue. C'est aussi une augmentation des mortalités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi, c'est aussi des patients, des malades qui ont des maladies chroniques, qui sont de plus en plus difficiles à suivre dans la rue. Lorsque vous avez un cancer, que vous avez une maladie parfois en stade terminal, et c'est bien de ce genre de contexte que je parle, eh bien, avoir un suivi adapté n'est pas possible lorsque vous êtes dans la rue ou lorsque vous êtes dans des centres d'accueil qui ne sont pas spécialisés et qui ne correspondent pas à vos problèmes, notamment de santé. Donc, il y a une urgence à faire en sorte que ces dispositifs d'accueil y répondent davantage en termes de nombre aux personnes qui sont dans la rue. Et je vous l'ai évoqué, hein, c'est quand même près de 60-70% en général de refus de propositions de mise à l'abri lorsqu'on appelle le 115 pendant toute l'année.
Le 115 est saturé.
C'est saturé.
Aujourd'hui, pour le dire concrètement, un SDF, un sans-abri qui vit dans la rue, doit appeler dès le matin, dès 6h, 8h du matin, le 115, pour espérer avoir une chance, un hébergement le soir même.
Ouais, alors juste déjà, en termes de représentation du SDF, parce que c'est important de l'avoir en tête,
bien sûr.
On n'est plus sur le profil d'un homme de 30 à 40 ans, en rupture sociale ou professionnelle, tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 80-90. Aujourd'hui, vous avez toujours ces profils-là, mais vous avez énormément de familles, de femmes seules, de femmes et d'enfants, et vous avez aussi beaucoup de mineurs, notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables et exposés aux violences de la rue qui tuent. Et ce que l'on constate, encore une fois, dans les programmes de Médecins du Monde, entre autres, c'est qu'on n'arrive pas à transférer ces personnes lorsqu'on les voit dans la rue, en maraude par exemple, lorsqu'on fait des maraudes, c'est-à-dire qu'on va dans les squats, on va dans la rue avec des bénévoles, des salariés, des équipes qui vont leur apporter les premiers soins, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et donc ça renvoie au constat assez clair que les dispositifs d'accueil sont insuffisants, et puis ils ne sont pas adaptés aussi. Quand je dis ne sont pas adaptés, c'est qu'ils ne correspondent pas à la diversité des profils des gens qui sont dans la rue, entre des familles, des femmes seules, des enfants, des malades. Vous pouvez pas proposer le même dispositif, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, l'urgence, elle est là. Un nombre de cas dans la rue monstrueux, des morts par centaines, et un État qui, on va dire, s'agite un peu lorsqu'il fait froid, alors que les mortalités sont présentes toute l'année.
Et justement, il y a la question des sans-abri, mais plus largement la question de la pauvreté, de la précarité qui gagne du terrain en France. Et le gouvernement a annoncé en septembre un objectif à 10 ans de réduction de la pauvreté. Ça, c'était des grandes annonces. Où est-ce qu'on en est? Vous avez eu des nouvelles depuis septembre? Est-ce qu'il y a des grandes actions mobilisées au-delà, comme vous le dites, des plans grand froid, des actions temporaires? Est-ce qu'il y a une vision à long terme pour répondre à la question de la pauvreté?
Alors aujourd'hui, c'est 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est plus de 10 millions de personnes. Et effectivement, Monsieur Macron, notamment, il y a quelques années, avait rappelé qu'il n'y aurait plus personne à la rue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on peut considérer que c'est un échec. Mais c'est un échec des politiques des différents gouvernements depuis 20 ans, de droite, de gauche, comme de l'en même temps, qui ne mettent pas assez les moyens dans la lutte contre les inégalités, il me semble. Et puis, pour revenir sur ce que vous évoquez, on l'a vu lors du débat sur le programme de loi de finances, le projet de loi de finances, la sécurité sociale, il y a une tendance qui, moi, me désole de beaucoup de nos élus qui considèrent que, notamment sur la question du système de santé qui est en souffrance, je vous l'apprends pas, eh bien, ce n'est pas le retrait de l'État dans le fait de soutenir la sécurité sociale qui est un problème, mais ce sont les patients. On pointe du doigt des abus, des patients qui seraient dans une situation de faire n'importe quoi.
Et on nous dit qu'il y a trop d'arrêts maladie, trop de médicaments.
Oui, ce qui a amené dans les débats la possibilité, notamment de remettre en question l'aide médicale d'État, mais ça c'est assez classique, hein, avec les migrants qui sont les boucs émissaires de tous nos problèmes, c'est le fait de taxer les franchises médicales. Alors c'est pas passé, mais on voit dans l'esprit ce que ça veut dire. C'est remettre en question des affections longue durée, c'est-à-dire considérer qu'il y a des Français qui abusent de ces dispositifs. Et d'une manière générale, on le sait, ça va être l'augmentation des forfaits et des mutuelles. Et donc, ce que l'on constate depuis de nombreuses années, qui de notre point de vue à Médecins du Monde est problématique, c'est qu'il y a une privatisation, une financiarisation du champ de la santé avec un marché qui est largement ouvert pour les mutuelles qui sont payantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça accentue les inégalités. Ça veut dire que les Français aujourd'hui ont ce qu'on appelle un reste à charge, ce qu'ils doivent payer pour leurs soins, qui est de plus en plus important. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos consultations aussi, c'est des patients qui retardent leurs soins, qui les diffèrent. C'est des personnes âgées, c'est plus de 500 000 qui sont précaires. C'est des étudiants qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, c'est pas en privatisant, en financiarisation de la santé, c'est en renforçant une certaine vision d'État social, et on en est loin aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Jean-François Corti? Parce qu'on entend aussi souvent les mêmes politiques dénoncer l'assistanat, les aides sociales qui n'inciteraient pas à retourner bosser. Qu'est-ce qui est cassé dans le modèle français? Parce que c'est aussi Emmanuel Macron qui dénonçait il y a quelques années un pognon de dingue qui serait déversé. Donc visiblement, la France serait très généreuse, dépenserait beaucoup, et pourtant la pauvreté progresse. Où est-ce que c'est cassé? Sur quel levier il faudrait activer pour répondre à la question de la pauvreté à l'heure où les politiques disent on dépense trop, justement?
Oui, alors ce qui explique que le tout gratuit s'est terminé, on l'a entendu, c'est faux. Enfin, on sait très bien que tous les Français, vous et moi, on cotise pour pouvoir avoir accès à un système de santé, et donc rien n'est gratuit chez nous. Simplement, ce qui est aujourd'hui bousculé, c'est une certaine idée de la solidarité ou que portait le Conseil national de la Résistance, celui qui a créé la sécurité sociale le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui rappelait que les plus précaires paieraient comme ils peuvent, cotiseraient comme ils peuvent, et tout le monde serait soigné au même niveau, y compris les plus riches. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de santé publique, et en tout cas un principe qu'il faut respecter, c'est que plus les inégalités de santé sont importantes, plus l'état global de la santé d'une société sera mauvais. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que les inégalités contre la santé soient combattues. Et aujourd'hui, les discours qui considèrent, qui disent que les Français abusent, qu'il y a l'assistanat et autres, ce n'est simplement qu'un moyen de déconstruire l'état social, c'est de faire la promotion d'une certaine vision d'un ultralibéralisme qui, de notre point de vue, est mauvais dans la lutte contre les inégalités et ne met pas la focale sur les problématiques de fond que sont le fait que les mutuelles sont de plus en plus chères, que le retard de recours aux soins n'est pas souvent évoqué dans la bouche des politiques que vous évoquez, alors que c'est une réalité qui fait que lorsque les patients consultent, souvent c'est trop tard, ça engage leur pronostic vital, c'est des coûts plus importants pour la société. Donc, non, nous défendons l'idée qu'il faut un état social plus fort, qu'il faut plus de moyens dans les hôpitaux, évidemment, dans les centres de santé, mais qu'il faut surtout arrêter ce discours stigmatisant de nos concitoyens qui ne sont pas là pour abuser d'un système de santé. Il faut leur faire confiance aussi.
J'aimerais qu'on termine avec une éclaircie, Jean-François Corti, dans ce tableau que vous dépeignez, c'est que les Français sont généreux. Le total des dons aux associations de la part des particuliers et des entreprises progresse tous les ans. Ça représente combien? C'est vital pour une ONG comme Médecins du Monde aujourd'hui, les dons des particuliers?
Oui, absolument. Notre budget, il est à moitié lié aux dons de nos concitoyens. Et on est dans un contexte où, de manière plus globale, les financements des États, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, notamment des Européens, est en train de baisser drastiquement. Et donc, les dons sont vitaux. Ils nous permettent de faire des opérations formation en France, à l'international, dans une trentaine de pays, de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre des financements étatiques pour pouvoir développer nos opérations en toute indépendance et pour pouvoir faire ce qu'on appelle du plaidoyer, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire défendre les droits fondamentaux, la lutte contre les inégalités. Donc c'est l'occasion, et merci de me donner l'occasion de remercier nos près de 400 000 donateurs en France qui nous permettent de faire des opérations indépendantes. Voilà, continuez à nous donner, c'est la garantie d'actions concrètes sur le terrain pour soutenir nos concitoyens.
C'est aussi la bonne date, là. On approche du 31 décembre pour rappeler qu'un don inférieur à 1 000 euros est défiscalisé à 75% auprès de Médecins du Monde ou de toute autre ONG ou association. Merci Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RMC.